l'heure du journal de la rédaction présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Lucille, bonjour à toutes et à tous.
Les quatre policiers mis en cause dans l'interpellation violente d'un producteur de musique samedi dernier à Paris ont été convoqués aujourd'hui à l'IGPN. Ils seront entendus sous le régime de la garde à vue. Quoi qu'il en soit, la diffusion hier de ces images continue de susciter une vive émotion. Le président lui-même, Emmanuel Macron, s'est dit très choqué avant de réclamer des sanctions claires.
Et cette affaire n'a fait que raviver un peu plus encore la controverse autour de l'article 24 de la loi Sécurité globale sur la diffusion de l'image des forces de l'ordre.
Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction dans une dizaine de minutes, la députée LREM Stella Dupont.
Le Sénat, dominé par l'opposition de droite, a entamé hier l'examen du plan de relance censé permettre à l'économie française de rebondir.
Le tout dans une rare confusion. Nous verrons également comment la bataille se poursuit toujours et encore entre Veolia et Suez. Et puis, à l'étranger, nous irons notamment en Allemagne, contrainte de desserrer l'étau budgétaire en pleine seconde vague de coronavirus. Parce qu'en l'espace de quelques minutes à peine, et sans motif apparent, il se sera retrouvé à devoir subir un véritable déchaînement de violence en même temps qu'un orage d'insultes débridées à caractère raciste. Michel Zecler s'est demandé s'il avait même affaire à de vrais policiers. Au point d'ailleurs qu'il appellera à l'aide les forces de l'ordre, sauf que la police est déjà là puisque ce sont bien trois de ses membres, un brigadier et deux gardiens de la paix qui, cinq longues minutes durant, vont le rouer de coups. Quand en pleine polémique sur le droit de filmer les forces de l'ordre en opération, et trois jours seulement après l'évacuation musclée lundi soir d'un camp de migrants, une nouvelle affaire de violence policière vient donc secouer l'Hexagone. Alors, suite au tabassage de ce producteur de musique samedi dernier, documenté par une vidéo largement diffusée hier sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Intérieur a aussitôt été dépêché hier soir au journal télévisé. Gérald Darmanin a demandé la suspension des trois policiers incriminés et d'un quatrième soupçonné, lui, d'avoir lancé une grenade lacrymogène. L'IGPN a par ailleurs été saisi et le parquet a pour sa part ouvert une enquête. Mais sera-ce suffisant pour éteindre la polémique? Antoine Maret, bonjour.
Bonjour.
L'intervention hier soir du ministre de l'Intérieur, incarnation de la stratégie sécuritaire voulue par le chef de l'État, était surtout le signe d'un malaise ambiant après cette succession de violences policières qui aura saisi d'effroi nombre de responsables politiques, et ce, Antoine, jusqu'au sommet de l'État.
Effectivement, Emmanuel Macron lui-même a été choqué par la violence de ces images et lors d'un entretien en tête-à-tête avec Gérald Darmanin, il a réclamé des sanctions très claires que le ministre de l'Intérieur a exposées aux 20h de France 2 hier. Mais ces sanctions ne remontent pas dans la hiérarchie, elles concernent les policiers impliqués et c'est tout. Le préfet de police de Paris, collectionneur de gaffes et adepte d'un maintien de l'ordre viril, reste en poste. « Je ne suis pas homme qui recherche des fusibles ou des boucs émissaires », explique Gérald Darmanin. En rester là, c'est une façon pour le ministre de l'Intérieur de nier l'existence d'un problème structurel au sein de la police. Il n'y a pas de problème de violence ou de problème de racisme chez les forces de l'ordre. Et qu'en problème il y a, ou plutôt qu'en vidéo il y a, ce sont, pour reprendre l'expression du ministre, des policiers qui déconnent. Autrement dit, le problème n'est pas global, il est anecdotique et doit être traité au niveau qu'il mérite. Si Gérald Darmanin agit de la sorte, c'est parce qu'il occupe un créneau. Il vient de la droite, il a comme modèle Nicolas Sarkozy, et sa nomination place Beauvau correspond à un virage régalien dans le mandat d'Emmanuel Macron, d'où la proposition de loi sur la sécurité globale, et d'où cet article 24 tant décrié par les journalistes de l'Humanité au Figaro et les politiques de gauche et du centre. Hier soir, le ministre de l'Intérieur a esquissé un nouveau recul sur ce sujet. Une réécriture est possible et c'est peut-être donc bien l'article 24 qui pourrait servir de fusible.
Merci Antoine Maret. Alors la multiplication de ces affaires de violence policière pose évidemment plusieurs questions, s'agissant tout d'abord de cet article litigieux sur la loi sécurité globale votée en première lecture cette semaine par l'Assemblée qui doit être soumis au Sénat alors même que cette nouvelle vidéo souligne le rôle décisif des images. Nous allons y revenir dans quelques instants avec notre invitée, la députée LREM Stella Dupont. Mais l'on pourrait également citer la doctrine aujourd'hui du maintien de l'ordre et donc la question de la responsabilité ou non dans ces affaires du préfet de police de Paris, Didier Lallement, autorité de tutelle. Enfin, Si ces bavures à répétition ont tendance à jeter le discrédit sur toute une profession, elles pointent aussi tout le paradoxe d'une institution en particulier, l'IGPN, et notamment Sarah Derce, lorsque des policiers sont appelés à enquêter sur des violences policières.
Les quatre lettres qui composent son sigle sont devenues le symbole d'un malaise autour de l'action des forces de l'ordre. IGPN, pour Inspection Générale de la Police Nationale, la police des polices, est un service rattaché au ministère de l'Intérieur. Le principal reproche fait à cette inspection, celui de chercher à protéger l'institution policière plutôt que les citoyens, jugés trop laxistes, partiels ou encore illégitimes, notamment lors des affaires de violences policières, vous le disiez, l'angle mort des enquêtes. Selon David Dufresne, le documentariste spécialiste du maintien de l'ordre collecte plusieurs dizaines de plaintes confiées à l'IGPN et leurs nombreux classements sans suite. À l'unisson des élus, des politiques, des universitaires ou encore des citoyens qui appellent à une réforme de l'IGPN. La plupart réclament la création sur le modèle britannique ou néerlandais d'une autorité indépendante composée d'une direction non policière et ouverte aux membres de la société civile. L'ancien ministre de l'Intérieur l'avait d'ailleurs promise. Christophe Castaner avait proposé que l'IGA, qui dépend directement du ministre de l'Intérieur, supervise les enquêtes les plus graves pour la partie administrative. Un comité citoyen au sein de l'IGPN avait également été évoqué. Une semi-réforme donc que Gérald Darmanin retrouve aujourd'hui en bonne place dans la pile de ses dossiers sensibles. La grande priorité pour Sébastien Rocher, criminologue et directeur de recherche au CNRS, couper le lien de subordination selon lui avec le ministère. Enfin pour d'autres, le retour de la confiance dans le contrôle de la police dépendra moins d'une réforme statutaire que d'une volonté politique.
Alors cette nouvelle vidéo d'une rare violence, on l'a dit, vient ajouter encore au trouble alimenté depuis plusieurs mois par la succession des bavures. Nathanaël Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
Au point que, vu de l'étranger cette fois-ci, eh bien de plus en plus de voix s'interrogent désormais, Nathanaël, sur une possible dérive du pouvoir aux accents autoritaires dans le pays des droits de l'homme.
Oui, l'affaire est évoquée dans de nombreux pays, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre, le Spiegel, El Republica, El País ou encore The Guardian évoquent le sujet. À chaque fois, les journaux racontent les faits et montrent les images. La vidéo des coups portés par les policiers se retrouve dans les pages des articles et les papiers sont sans retenue sur ce qui s'est passé. Il en est de même pour certains journaux comme Le Temps en Suisse, mais Le Quotidien va plus loin et rassemble les différentes interventions policières musclées de ces derniers jours, comme la manifestation contre l'article 24 voté par l'Assemblée nationale ou encore comme l'expulsion des migrants place de la République à Paris. En France, dit le journal dans un autre article, la police affronte une crise morale sans précédent. La Belgique libre, à sa une, parle d'une France en état de choc, parle d'images violentes et accablantes pour au moins l'un des trois policiers et s'interroge donc sur une possible dérive ultra-sécuritaire de la France. Reste encore le Financial Times qui lui se projette déjà dans l'après et rappelle que le président Macron a perdu beaucoup de soutien sur sa gauche, que ses chances de gagner la prochaine présidentielle se jouent sur sa droite. Or, explique le journal, ce n'est pas en protégeant la police de ses excès et de ses dérapages qu'il pourra gagner. En résumé, le président Macron se trompe de chemin.
Merci Nathanaël Charbonnier. Et pour poursuivre toujours et encore sur ce dossier, invité à présent de la rédaction, Stella Dupont, députée du Maine-et-Loire, ancienne socialiste et aujourd'hui membre de la majorité. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors cette semaine, il se trouve que vous avez voté, comme neuf autres, je crois, de vos camarades d'En Marche, contre la proposition de loi controversée de sécurité globale, en pointant notamment des restrictions de liberté. Or, s'agissant du fameux article 24, qui, rappelons-le, prévoit de pénaliser la diffusion malveillante de l'image des policiers et gendarmes, il se trouve que le ministre de l'Intérieur, qui se refuse toujours à abandonner cet article, a consenti à sa réécriture si nécessaire. Gérald Darmanin a annoncé la création hier d'une commission composée notamment de journalistes, de magistrats, de policiers pour réfléchir donc à cette réécriture. Ce qui n'a pas eu l'heure de plaire visiblement à certains de vos collègues, au premier rang desquels le président LREM de l'Assemblée, Richard Ferrand, qui voit une négation du rôle du Parlement. Est-ce que c'est également votre cas ?
Mais je crois que sur cette initiative, je peux la comprendre, que le Premier ministre ait envie que ce texte soit retravaillé, même si à titre personnel, ne l'ayant pas voté, bien entendu qu'une réécriture ne me satisferait pas non plus, puisqu'il y a un problème de fond plus large sur l'ensemble de ce texte. Mais je crois que le Parlement, c'est un travail parlementaire, même si je ne suis pas, bien entendu, j'ai pas voté ce texte, donc je ne suis pas en phase. Il n'empêche que les collègues ont beaucoup travaillé, qu'il y ait de nouveaux apports et une nouvelle réflexion, ça s'entend, mais bien entendu, l'indépendance du Parlement, de l'Assemblée et du Sénat doit être respectée, et c'est ce qui a questionné effectivement lors de l'annonce de cette initiative.
Vous l'avez en partie évoqué à l'instant, faut-il réécrire cet article 24 ou bien les affaires de cette semaine sont-elles selon vous une preuve flagrante de la nécessité d'abandonner purement et simplement l'article 24 ?
Je crois que vouloir protéger les forces de l'ordre lorsqu'elles sont agressées et mises en pâture sur les réseaux sociaux et que leurs familles elles-mêmes ont peur pour elles-mêmes et pour le policier ou le gendarme, c'est naturel. On dispose d'ores et déjà, de mon point de vue, d'outils dans le code pénal qui permettent justement de lutter contre cette réalité extrêmement dommageable. Sur l'article 24, je crois que sa réécriture, je pense, ne serait pas suffisante, parce que ce qui pose problème dans cet article, c'est qu'il vise à amender et à revoir une loi fondamentale. C'est la loi de 1881, oui, je dis bien 1881, donc une loi très ancienne, qui régit la liberté de la presse. Et les journalistes et nombre de citoyens sont très très attachés à ce texte, et je pense que on peut peut-être revoir certains articles du code pénal pour renforcer cette protection des forces de l'ordre, parce qu'elle est aussi nécessaire. Mais je pense que il est préférable vraiment de laisser en l'état ce texte qui concerne cette liberté de la presse auquel nous sommes tant attachés ici dans notre pays des droits de l'homme.
Avec l'association En Commun, courant de la majorité présidentielle, vous avez écrit, Madame Dupont, à Gérald Darmanin pour exprimer votre inquiétude vis-à-vis du comportement, je cite, « indigne » de certains agents des forces de l'ordre. S'agit-il de comportements isolés, comme le laisse entendre le ministre de l'Intérieur, qui, rappelons-le, à peine nommé en juillet dernier, avait déclaré « quand j'entends le mot « violence policière », personnellement, je m'étouffe ». Ou bien y a-t-il un problème de fond aujourd'hui dans la police française ?
Eh bien, vous savez, j'ai été extrêmement choquée, je pense, comme tout le monde, par les images que j'ai pu voir hier. Je pense que ce sont les faits, bien entendu, de quelques policiers. Il n'empêche que ces policiers, de mon point de vue, sont très vraisemblablement racistes. Ce sont des voyous, voire fascistes, je ne sais pas le dire. Et je pense que forcément, leurs collègues connaissent les penchants de ces hommes. Et du coup, cette violence gratuite dont on a été témoin m'interpelle et m'amène à penser que peut-être ces faits sont malheureusement plus nombreux qu'on ne le pensait jusqu'alors. Donc moi, je crois que on se doit de mettre au clair, et j'ai apprécié les mots de Gérald Darmanin hier soir lorsqu'il a dit que si bien entendu la justice confirmait les faits, il demanderait la révocation de ces policiers. Je crois que on en est là aujourd'hui. Vous savez, ce qui est au cœur et ce qui m'a amené aussi à voter contre cette loi sécurité globale, c'est que pour moi, un état de droit a besoin de sécurité et de forces de sécurité, bien entendu, a besoin de gardiens de la paix. Mais tout cela, ça doit s'appuyer sur une confiance respective de part et d'autre, des citoyens et bien entendu de l'ensemble des fonctionnaires d'État également. Et il me semble que la confiance est questionnée aujourd'hui. Les images également de lundi, place de la République, ont amené là aussi nombre de citoyens, je pense, à se questionner. Donc cette réalité-là, on ne doit pas la nier. On doit l'affronter Moi, je suis favorable à ce que peut-être une enquête parlementaire soit diligentée, parce qu'il faut mettre un coup d'arrêt. Donc, le ministre doit être intraitable pour que ces quelques faits, j'espère qu'ils sont très limités, moi aussi, bien entendu, mais qu'ils soient systématiquement pointés et systématiquement jugés, et qu'à chaque fois les sanctions soient exemplaires. Parce qu'il en va justement de l'équilibre de notre pays et de la relation de confiance essentielle que les citoyens doivent avoir.
Madame Dupont, vous nous disiez à l'instant que vous étiez satisfaite hier soir des mots de Gérald Darmanin. Et pourtant, depuis quelque temps, une petite musique monte, y compris d'ailleurs au sein de la majorité, selon laquelle il y aurait un problème Darmanin. Est-ce que vous êtes de cet avis ?
Je crois que... chacun est libre. Moi, lorsque je pose question au ministre de l'Intérieur parce que je suis en désaccord avec telle ou telle proposition ou telle décision, j'estime qu'en tant que députée, je suis dans mon rôle, et en tant que députée de la majorité, je le suis d'autant plus. Gérald Darmanin, je pense, s'inscrit dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le Premier ministre. Donc moi, je ne considère pas qu'il y a de problème Darmanin en tant que tel. Je pense qu'il est ministre de l'Intérieur dans un contexte compliqué de lié à cette crise sanitaire également, qu'il faut être au four et au moulin. Moi, ce que j'attends de lui, c'est qu'il réponde, bien entendu, lorsque nous l'interpellons, et il sera d'ailleurs devant la commission des lois cette semaine, et qu'il, lorsque des faits comme ceux-ci sont amenés à sa connaissance, eh bien qu'il agisse et qu'il soit à la hauteur du sujet et intraitable. C'est vraiment le terme que je retiens. Il faut être exemplaire, les forces de l'ordre. Et le ministre de l'Intérieur, bien entendu, doit être exemplaire en la matière dans ce moment difficile que nous traversons.
Et on terminera par ces mots. Merci Stella Dupont, députée LREM du Maine-et-Loire, d'avoir répondu à notre invitation. Compteur explosé, ambiance plombée, suspension de séance à répétition et ministre manifestement agacé. C'est peu dire que le débat sur le plan de relance a dérapé hier soir au Sénat, s'enlisant dans une confusion pour le moins inhabituelle à la Chambre haute. Les sénateurs ont voté à main levée les crédits de la mission plan de relance, mais Rosalie Lafarge sans avoir été au bout de la discussion.
C'était rocambolesque, résume un sénateur En Marche. Le Sénat a bien fini par adopter la première partie de la mission plan de relance, mais en la modifiant au point de la dénaturer, regrette le ministre chargé des comptes publics, Olivier Dussopt. Dénaturer quoi ? S'étonne une sénatrice de gauche qui dit ne pas comprendre ce qui s'est passé. C'est lui qui a pris la mouche, assure-t-elle en parlant du ministre. C'est lui qui a demandé des suspensions de séances à répétition. Et c'est en tout cas une ambiance tendue qui a gagné le palais du Luxembourg.
Alors pourquoi 25 millions ?
Cette Madame Jourda, faites un petit effort, s'il vous plaît.
Une enveloppe de 89 millions et demi d'euros destinée au recyclage des
Madame Jourda,
j'achève.
Oui.
Donc,
oui.
Pardon.
Il faut vraiment.
Eh bien, j'achève.
Avec petit à petit un ministre qui s'agace.
Et j'avais demandé la parole avant que Madame la sénatrice s'exprime pour demander une suspension de séance.
Ok, 5 minutes, Monsieur le ministre, ou plus.
On va dire au moins la durée de l'intervention précédente.
Tout est parti du vote surprise d'un amendement socialiste. Il prévoit 2,5 milliards d'euros pour les territoires d'outre-mer, ponctionnés sur ce qui était prévu notamment pour la rénovation énergétique. Ça a fait exploser les compteurs, reconnaît le président PS de la commission des finances du Sénat. Ça a surtout rendu fou le ministre qui s'est mis à vouloir tout bloquer, siffle un élu de gauche. Pas du tout, défend-on chez les marcheurs perplexes. On ne savait plus où on en était, on ne savait surtout plus où il prenait l'argent, explique un macroniste qui pointe les incohérences dans la redistribution des crédits par les sénateurs. Résultat, regrette-t-il, tout risque de tomber à l'Assemblée nationale. Des heures de travail et de discussion pour à la fin revenir à la case départ.
La bataille entre Veolia et Suez n'est visiblement pas prête de s'éteindre. Hier, des huissiers ont opéré des saisies au siège de Veolia, mais aussi Engie et Meridiam, une procédure autorisée par la justice en réponse à une requête de Suez qui depuis plusieurs mois maintenant se débat, vous le savez, en dénonçant une opération non seulement déloyale à son encontre, mais aussi porteuse de casse industrielle. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
En clair, Suez entend faire la lumière sur les conditions de rachat des parts d'Engie par Veolia.
Oui, et il espère que ces saisies lui fourniront des preuves d'un processus extrêmement opaque, selon lui. Hier matin, à 9h, des huissiers accompagnés par des informaticiens tapent donc à la porte de Veolia, Engie et Meridiam avec une lettre de mission très précise. Ils doivent saisir des documents comportant certains mots-clés, des mots liés à l'opération de rachat de Veolia, des noms de code notamment comme Vivaldi ou Schubert. Accès aux ordinateurs des dirigeants des trois groupes, aux services informatiques, aux téléphones portables, les échanges de mails sont passés au crible. Des documents sont donc saisis et c'est la justice, en l'occurrence le tribunal de commerce de Nanterre, qui sélectionnera ceux qui seront envoyés à Suez. Par cette action, le groupe de Bertrand Camus veut donc pouvoir étayer ses soupçons. Il y a eu, selon lui, des discussions secrètes entre Veolia et Engie avant même les annonces publiques du patron d'Engie indiquant vouloir céder ses parts dans Suez. En parallèle, Veolia aurait approché le fonds Meridiam dès le mois de juillet pour lui proposer la vente de l'activité eau de Suez afin d'éviter les problèmes de concurrence. Et tout aurait été fait pour verrouiller l'opération et empêcher l'émergence d'une offre alternative. Voilà ce qu'on dit chez Suez. Si le groupe pense avoir les preuves suffisantes de ces allégations, il lancera alors une procédure judiciaire pour faire annuler la vente des parts d'Engie à Veolia. Alors de son côté, Veolia l'assure, nous n'avons rien à cacher. Le groupe d'Antoine Frérot souligne une nouvelle fois que les dirigeants de Suez auraient pu monter une offre alternative au lieu de partir en vacances. Une guerre comme on a rarement vu, en tout cas dans le monde des affaires, est suivie avec attention par l'intersyndicale de Suez, elle aussi toujours déterminée à faire annuler ce projet. Elle a d'ailleurs déposé il y a quelques semaines un signalement auprès du parquet national financier.
Merci Anne-Laure Jumet. L'INSEE a révisé à la hausse ce matin son estimation du rebond de l'économie au troisième trimestre. Le produit intérieur brut affichant une progression de plus 18,7% contre 18,2% estimé précédemment. Le PIB reste toutefois largement inférieur de près de 4 points à son niveau du troisième trimestre l'an dernier. Direction à présent l'Allemagne qui devrait s'endetter à hauteur de 180 milliards d'euros en 2021. Et la faute, faut-il le préciser, on revient bien sûr à l'épidémie de Covid-19 et notamment cette seconde vague qui l'a poussé à prolonger ses restrictions jusqu'en janvier prochain. Le budget annuel a été approuvé ce matin en commission des finances et il devra encore être approuvé au Bundestag le 7 décembre. Ludovic Piétenu, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Berlin, cela signifie que l'Allemagne va donc devoir déroger une nouvelle fois à la sacro-sainte règle du frein à l'endettement inscrit dans la Constitution.
Oui, c'est la deuxième fois et la deuxième année de suite que l'Allemagne s'autorise cette légère entorse du fait des dispendieux plans de relance, de ce que coûte le soutien à l'économie depuis la pandémie. Berlin s'assied en effet sur sa rigueur budgétaire quasi légendaire, puisque dans la loi fondamentale, ici on peut le rappeler, il est interdit de faire plonger les comptes dans le rouge, ou alors vraiment à peine, pas plus de 0,35% de déficit autorisé. C'est ce qu'on appelle le Schwarz-Null, le zéro noir. En 2020, le pays a contracté un montant record de 217 milliards d'euros de dettes. On savait aussi depuis septembre qu'il en serait de même pour les comptes de l'année prochaine, mais pas à ce point. C'est ça qui est surprenant ce matin. Il y a deux mois, le ministre des Finances, Olaf Scholz, avait prévu 96 milliards, ce qui était déjà beaucoup. Les députés ont donc acté quasiment le double. Il va falloir emprunter au total 180 milliards d'euros. Mais l'opinion publique allemande est en soutien. Trois quarts des Allemands approuvent que ce tabou soit brisé. Les Allemands s'y retrouvent. Ça sauve des emplois. Ça finance le chômage partiel, ça permet aussi de baisser les impôts, c'est la fin de l'impôt de solidarité entre l'Est et l'Ouest, et en général quand on baisse les impôts tout le monde est content. La TVA aussi a été réduite ces 6 derniers mois, cela offre aussi une hausse des allocations aux ménages avec enfants.
Merci Ludovic Piétenu en direct de Berlin. Une année de sprint et l'espoir au bout quand la vaccination contre le Covid-19 est un objectif que le monde touche désormais du doigt un an seulement après l'apparition de cette nouvelle maladie. C'est évidemment le résultat de recherches menées à une vitesse inédite même si toutes les inconnues sont encore loin d'être levées. Quoi qu'il en soit, tout s'est donc accéléré ce mois-ci avec les premières annonces. En l'occurrence, 4 fabricants ont annoncé que leur vaccin était efficace. L'alliance américano-allemande, Pfizer-BioNTech, le laboratoire américain Moderna, l'alliance britannique, AstraZeneca avec l'université d'Oxford, et puis les Russes de l'Institut d'État Gamaleya. Alors il se trouve que Moscou a été critiqué par certains scientifiques occidentaux qui l'accusent de ne pas avoir respecté toutes les procédures afin d'accélérer la sortie de son vaccin baptisé Sputnik V et dont plus d'un milliard de doses devraient être produites l'an prochain. À ce titre, l'Inde pourrait à partir de l'année prochaine produire jusqu'à 100 millions de doses par an du fameux Sputnik V, une annonce qui fait suite à d'autres et pourrait ainsi faire du sous-continent indien le principal producteur de vaccins Covid au monde. C'est une correspondance signée comme Bastin.
C'est le fruit d'un accord entre le fonds d'investissement souverain russe et le producteur Heterolabs, basé dans la ville d'Hyderabad. Plus de 100 millions de doses du vaccin russe Sputnik V seront produites en Inde durant l'année 2021. L'annonce fait suite à la publication de résultats encourageants sur ce vaccin le 24 novembre. Impliquant 40 000 bénévoles en Russie, la phase 3 de tests cliniques a montré une efficacité de Sputnik V de 91,4%. Au moins 50 pays ont déjà commandé 1,2 milliard de doses de ce vaccin. L'Inde le produira aux côtés du Brésil, de la Chine ou de la Corée du Sud. Les essais cliniques du vaccin russe sont encore en cours dans de nombreux pays. Le fonds d'investissement souverain russe a demandé à l'OMS une approbation accélérée de son vaccin au vu de la situation d'urgence mondiale. Le 23 novembre, c'est la firme britannique AstraZeneca qui a affirmé que son vaccin dit d'Oxford était efficace à 90%. Avant même ces résultats, le producteur Serum Institute of India avait annoncé en avoir produit 40 millions de doses. Il vise 100 millions d'ici janvier, destinés à l'Inde en priorité, puis 1 milliard par an pour lesquels il a fait sortir de terre une gigantesque usine. Un pari qui, s'il réussit, fera du Serum Institute of India le plus grand producteur du monde.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par une dégradation près de la Méditerranée. Avec un ciel couvert et des pluies continues partout ailleurs, le temps sera plus calme. Quant aux températures, elles afficheront entre 5 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet à 18h. Vous avez rendez-vous avec Annabelle Grelier pour le prochain journal de la rédaction.
Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Aérons les pièces plusieurs fois par jour. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci était un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
12h56 sur France Culture, l'heure de vous retrouver Lucille Como pour la critique, deuxième partie.
Merci Thomas Cluzel, à bientôt. La critique se poursuit. Je suis toujours en compagnie de Muriel Joudet, critique de cinéma aux Inrocks, entre autres, et en ligne avec Jérôme Momcilovitch, critique au Cahier du cinéma. Dans quelques instants, nous parlerons d'un livre, Cassavetes par Cassavetes, mais tout de suite, place à un documentaire sorti sur la plateforme Arte, Petite fille, de Sébastien Lifshitz. On écoute le début du film. Nous sommes dans le cabinet d'un médecin.
Sacha, depuis longtemps, maintenant, se sent... Pas, c'est pas, Sacha se sent pas. Sacha est une petite fille.
C'est
une petite fille dans un corps de garçon.
Il déclare depuis qu'il est en âge d'identifier son sexe, voilà. Il vous dit toujours « je suis une petite fille ». Oui.
Voilà. Mais c'est pas qu'il me dit « je suis une petite fille », c'est qu'au départ, Sacha me disait « quand je serai grand, je serai une fille ».
Oui.
Au tout début, quand il y avait 2 ans et demi.
Depuis l'âge de 3 ans
2 ans et demi, 4 ans.
2 ans et demi, 3 ans.
Ouais, oui, au tout début. Et je lui dis « bah non ». Puis en fait, c'est resté jusqu'au jour où j'ai vraiment compris que c'était pas une passade. C'est pas un passage comme les autres enfants ont pu avoir.
D'accord. C'est quelque chose qui revient régulièrement.
C'est pas que ça revient, c'est que ça ne part pas.
Ça ne part pas.
C'est que Sacha est une fille.
D'accord.
Sacha déteste son zizi. Sacha déteste le fait de ne pas pouvoir porter un jour un bébé dans son ventre. Mm-hmm. C'est quelque chose dont Sacha me parle.
D'accord. Ça. Donc il a évoqué, oui, qu'il a verbalisé devant vous. Oui.
Ah oui.
Sébastien Lifshitz, c'est chanceux, on peut le dire. Son long métrage adolescente est passé entre les gouttes des confinements. On en avait parlé d'ailleurs dans une précédente émission. Et son deuxième film cette année, Petite fille, sort directement à la télévision, période de disette, avec beaucoup de regards braqués sur lui donc. On y suit Sacha, une petite fille née dans un corps de garçon qui grandit dans une famille nombreuse et aimante dans une petite ville française. Elle fait de la danse, elle va à l'école et se confronte dans ses diverses institutions à l'incompréhension, voire la cruauté de ses tenants. On la voit qui joue, qui danse, qui s'habille, des moments banals et des moments terribles. Le tout sous le regard quasi omniprésent de sa mère qui se bat pour qu'on reconnaisse cette dysphorie de genre. Jérôme Mopsilovitch, quel regard vous avez porté sur ce film de Sébastien Lifshitz ?
La première chose que je pourrais dire, et c'est peut-être finalement je devrais presque s'en tenir à ça. Moi, le film m'a beaucoup ému. Je trouve que cette petite fille est absolument bouleversante, et là-dessus, le film réussit complètement ce qu'il avait à faire. Et justement, moi, j'aurais toutes sortes de réserves vis-à-vis de cette façon de faire du documentaire. J'avoue qu'adolescente, j'avais pas aimé ça du tout. J'ai différentes réserves ici aussi, mais quand je disais qu'il faudrait presque s'en tenir à l'émotion, c'est que je trouve qu'il y a une mission que se donne Lifshitz avec ses films, très noble, qui est une mission d'éducation, j'ai envie de dire, peut-être plus que militante. Et je trouve qu'il faut vraiment se réjouir qu'un film comme ça passe sur Arte à 20h30, et je pense qu'il peut avoir un impact important, voilà. Après, les réserves que j'ai, parce qu'on est quand même là pour parler de ça un petit peu, c'est que c'est une forme qui est excessivement dramaturgique. Et ça veut dire une chose, ça veut dire que dans ces documentaires-là, finalement, ce qu'on voit, ce sont des gens qui performent pour une caméra qui leur demande de faire comme si elle n'était pas là. Et c'est quelque chose qui est très sensible, notamment dans tous les moments de transition du film, qui ressemblent vraiment à ce qu'on appelle à la télé des moments d'illustration, et qui sont des moments où moi, ce qui me manque, c'est que j'ai l'impression finalement de jamais vraiment rencontrer les personnages dans leur singularité, parce qu'ils sont toujours d'emblée pris dans un regard, dans une idée, c'est-à-dire dans le filtre de quelque chose qu'ils doivent représenter. Donc par exemple, je pense aux scènes, voyez, on sort d'un des rendez-vous avec cette pédopsychiatre, et au retour on a un plan sur le frère qui lui joue au ballon parce que le frère est un garçon qui se vit comme garçon, et voilà. Ou bien quand on voit cette petite fille Sacha en train de regarder la Reine des Neiges, etc., etc. Moi, tout ça me gêne toujours un petit peu. Après, je pense que là où j'ai pas envie d'insister trop là-dessus, c'est que peut-être que le film juge, et peut-être pour de bonnes raisons, qu'il faut en passer par là pour aller chercher le maximum de monde. C'est-à-dire qu'il faut faire fictionner un petit peu tout ça, parce qu'il faut aller chercher dans les habitudes que les gens ont du récit par les images. Et voilà, donc disons que j'ai des réserves, mais que j'ai presque envie de taire un petit peu sous l'impression que le film vise peut-être juste, entre guillemets, stratégiquement, disons, par rapport à sa place et à la mission éducative qu'il se donne.
Ouais, est-ce que cette justesse dans l'émotion dont vous parlez, Jérôme, c'est pas un problème? Est-ce qu'elle n'est pas complètement créée par le film?
Est-ce qu'elle
n'agit pas comme une pression? Et le fait même qu'un critique de cinéma dise, je vous embête, hein, je vais m'en tenir à ça, c'est pas un peu un problème.
Mais voyez, je le dis, et en même temps, je le fais pas, évidemment, mais si vous voulez, en fait, il y a un truc qui résiste dans le film, et moi c'est pour ça que le film quand même me plaît beaucoup plus qu'Adolescente, par exemple, c'est que il y a quelque chose qui résiste à cette surdramaturgie, c'est le visage de l'enfant. C'est-à-dire que tout est excessivement lisible dans le film, à commencer par le visage de la mère, et la mère est évidemment bouleversante, son dilemme, son angoisse terrible à l'idée que son enfant souffre, tout ça est parfaitement déchirant, mais on voit d'emblée ce qu'il y a à comprendre sur ce visage. Ce qui m'intéresse moi le plus dans le film, c'est le visage de l'enfant, parce que le visage de l'enfant, encore une fois, résiste à cette dramaturgie, et du coup on a envie de le regarder plus longtemps, parce qu'il y a un mystère et il y a une vraie singularité dans le visage de l'enfant. Là, le film m'intéresse. Après, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui résiste, qui échappe à un programme qui est évidemment un peu bulldozer. Mais le film l'assume. De toute façon, le film se termine sur les mots de je sais plus qui dit qu'il faut faire changer les mentalités. C'est évidemment la fonction que se donne le film.
Muriel Joudet.
Oui, c'est un peu, moi le terme qui me vient, c'est une sorte de lisibilité maximale. On en voit beaucoup, des documentaires sur ce sujet, des fictions aussi. Parfois, on est un peu embrouillé. Là, il y a quelque chose, une sorte de pureté documentaire et de pureté éducative. Et c'est intimement lié au fait que, en fait, on apprend en même temps que cette mère ce qui se passe, ce qu'il faut prendre, les rendez-vous avec l'endocrinologue. Elle tâtonne en même temps que nous, et on n'est pas du tout avec un adulte qui serait dans la dysphorie de genre. On est avec une petite fille, et du coup, on est nous-mêmes dans un statut d'enfant, et peut-être ça peut être gênant, ça, le côté éduquez-moi. Voilà, je vais écouter, je sais rien, il faut qu'on m'informe sur ce sujet. Ça peut être un peu gênant, cette posture, surtout pour des critiques, parce que nous, voilà, on sait tout, on a de l'orgueil, et ça peut nous gêner. Mais en tout cas, en termes d'éducation et de pédagogie de ce que peut faire la télé, vraiment, il y a une sorte d'efficacité maximale. Et moi, souvent, je me plains de voir ces films. Je sais pas, j'ai pas réussi à trouver si le film allait sortir au cinéma et que finalement, c'est à la télé.
Non, je crois que c'est... Mais j'ai vu pour une diffusion sur Arte dès le
d'accord.
début.
D'accord. Mais souvent, je me plains que des documentaires sur des sujets comme ça sortent au cinéma et rencontrent finalement un public de... Voilà, prêche des convaincus.